Le jour où on m'a dit va falloir faire tout seul, j'ai d'abord fait la gueule, puis j'ai ri de ma gueule. Tous ces mots qui dégueulent, ça fait une drôle de barre, pas enrasé les murs. Au début, pas trop sûr, un moment faut y aller. Au milieu de la rue, y a plus à hésiter. Le trottoir est de marbre de l'autre côté. Le jour où j'ai failli retourner dans la tombe, le temps était aux bombes et je les ai bravés. Les gens étaient en nombre à guetter ma rechute.
Karine.
Oui, et toi?
Ça va. On est ensemble jusqu'à 22h dans Imaginaire sur le 101.5. Au programme de notre émission. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On commence par toi. Enfin non, on aura une chronique de Seb d'abord. Hein.
Oui.
À propos d'une bande dessinée interactive, enfin un mélange de BD et de livres dont vous êtes le héros, Astérix.
Voilà,
il suit un peu l'actualité cinéma populaire du moment. Donc une BD sortie dans les années 80. Et puis avant, je vais quand même donner quelques news de l'asso. Et puis après, ce sera ta chronique. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
Oui, je vais vous parler du premier tome du Chevalier aux épines.
De Kik.
Jean-Philippe Jaworski.
Ouais.
Je n'écorche pas son nom de famille.
Et puis après, on aura l'interview de Rich Larson. J'espère que je n'écorche pas son prénom non plus.
Oui,
donc écrivain anglais, je crois que Pierre-Marie avait interviewé aux Utopias.
Canadien,
d'accord, ok. Bon. Et du coup, il parle un petit peu français. Donc,
oui.
C'est quand même très
bien. Il parle bien français, pour le coup. Enfin,
Qui venait aux Utopias donc faire la promotion de Ymir.
Oui.
Qui est sorti au Bélial, son troisième roman. Et on commence l'émission avec Gogol le Bordello dans Imaginaire sur le 101.5.
Just begun. It's the era of the end of eras. You left us bleeding on the streets. Where said I said there is mascara. Runs over places where aeons don't meet. It's the era of the end of eras. Go build an ark of your own. Gather all your magic beasts and treasures.
Bordello dans Imaginaire sur le 101.5 avec The Era of the End of Eras, un extrait de leur huitième et dernier album, je ne sais plus comment il s'appelle, Solidarity, quelque chose comme ça, qui était sorti l'année dernière, un groupe de gypsy punk, se disent-ils, qui est basé à New York, mais avec des gens... d'origine diverse, hein. Ils ont un chanteur ukrainien par exemple. Ah. Et ben voilà, ils vont tourner en France en juin, hein. C'est un engin, on est tourneur en juin, je crois, c'est Radical Production, il me semble qu'il les fait tourner. D'accord. Notamment, il y aura une date Wellfest sur une belle journée punk, puisqu'on retrouvera aussi Flogging Molly, aussi plutôt folk punk américain, oh, que j'aime beaucoup. Et puis voilà, il y aura les Chats, Rancid, Less Than Jake, pas mal de bons trucs ce jour-là. Les places d'ailleurs, si vous n'avez pas votre passe pour le Hellfest, les places à l'unité seront vendues mardi prochain à 13h. On parle un peu des actus de l'association Imaginaire. Prochaine activité, ce sera donc une matinée jeu de rôle sur le thème de l'écologie à la médiathèque Hervé Bazin à Trélazé. C'est un dimanche matin en mars, le 12.
Oui, tout à fait.
Ouais. Je ferai jouer Aqua Blue, jeu de rôle assez récent tiré de la célèbre série de bande dessinée. Et puis on aura un autre jeu qui sera fait jouer par Pierre-Marie, qui a été écrit par quelqu'un de l'ADEME apparemment. Bon, t'es en train de chercher le nom, on se rappelle plus du nom.
C'est
du jeu.
C'est danger et durabilité.
Ah oui. Ok, voilà, donc vous pouvez vous inscrire directement par la médiathèque Hervé Bazin. Donc ce sera un dimanche matin entre 10h et 12h30. Et puis, autre gros événement qui arrive et auquel on va participer, et même tout Radio G va participer en fait, il y a un partenariat qui se fait là. Je pense que le studio mobile de Radio G sera dans l'entrée du festival, donc du Parc des Expos, puisque ce sera l'Angers Geek Fest qui aura lieu les 1er et 2 avril 2023. Le thème, c'est Utopie, Dystopie. Donc, il y aura un stand imaginaire et notamment, nous animerons deux tables rondes avec Karim Berouka. Bah, lui aussi sera à l'affiche du Hellfest, mais la veille, avec les Ludwig. Et on aura aussi Étienne Barillet, Ariel Kiriou et Aurélie Wellenstein. Pour les tables rondes. Et puis, sur la table d'imaginaire, il y aura Guillaume Albin, dessinateur de l'univers Noël Buck. Et puis, Tony Emeriot et Boris Beuzelin, toujours pour leur comics Paria, série en cours. Et puis, Mark Srikirst aussi, je ne sais plus si j'en avais déjà parlé, mais on les représentera parce qu'on a le temps d'en parler, qui écrit la fanfiction très inspirée de Star Wars. Donc ça tombe plutôt bien. Je crois qu'il y aura même un espace Star Wars, il me semble, cette année à l'AGF. J'ai vu qu'il y aurait aussi une expo Naruto. Voilà.
Ah, cool.
Et ben, ce sera tout pour les actus d'Imaginaire dans les semaines, mois qui arrivent. On va passer à la chronique de Seb, donc à propos... d'une bande dessinée interactive Astérix sortie dans les années 80.
Coucou les amis, je suis content de vous retrouver sur le 101.5 FM pour vous parler d'une BD jeu Astérix qui date des années 80, le rendez-vous du chef. Alors, rentrons dans le vif du sujet en vous disant qu'elle est pourvue, cette BD, de deux très bons mini-jeux à déplacement de case à case, où il s'agit de fuir des légionnaires sans que la partie soit gagnée d'avance. Donc on a des petits jeux illustrés, et pour vous dire que cette première BD, elle est vraiment dynamique, divisée en chapitres, et elle va être forte de nombreuses cases illustrées de différentes tailles qui mettent bien dans l'ambiance enjouée et enlevée. Elle possède un je ne sais quoi qui la rend de suite accrocheuse à la lecture, comme un bon vieux album d'Astérix. En introduction, naturellement, on démarre au village de nos copains Astérix et Obélix. C'est un judicieux point de départ qui pose les bases d'une histoire originale servie par le druide Panoramix. Alors, en quelques mots, il s'agit de ramener de sa cure thermale le chef du village, Abrara Coursix. Sans quoi ce dernier manquera un rendez-vous crucial, le rendez-vous du chef, garantissant la paix en Armorique avec Moral et Lastix, chef d'un autre village. Or certes, il y a quelques erreurs non dramatiques qu'on corrige de soi-même, et c'est un peu une chose qu'on retrouve dans les livres jeux des années 80. Et on a un deuxième chapitre qui va perdre de sa saveur si on ne se fait point capturer par la garnison du camp romain de Baba Orum, un des camps qui entoure notre village d'irréductibles gaulois. Mais qu'un lecteur confirmé des livres dont vous êtes le héros ne se dise point que la difficulté n'est pas au rendez-vous, en incarnant qui ? Le jovial Goudurix, le neveu d'Abra Coursix. Goudurix qui est légèrement personnalisé grâce au choix d'une aptitude secondaire sur 4. Et des jets de caractéristiques peuvent signifier la fin logique de l'aventure, ce qui m'amène à vous dire que le challenge n'est donc pas absent pour une BD en rien enfantine. Et heureusement qu'on a de la potion magique, eh oui, mais en quantité limitée, pour passer des combats homériques, pour dire super épineux. Les adversaires rencontrés étant bien souvent en masse. Il y a légion de légionnaires, les amis. Donc, il n'est pas toujours conseillé de foncer dans le tas comme Obélix. Le rire est souvent de la partie, et ça j'adore dans cette BD jeu. Aucun personnage non-joueur n'arrache la mélancolie. Mention spéciale aux Arvernes. Plus traître que toi, tu meurs. Les Romains ivrognes qui se mettent en rogne, excusez du jeu de mots, et le nom des personnages qu'ils portent plutôt farfelu. Ah, et on en voit du pays dans cette BD, qu'on traverse à pied et en char, chaque mode de déplacement ayant son lot de dangers d'épreuves propres, avec à des auberges bien animées, où on déguste différentes recettes de sangliers, et qui sont le cadre de sympathiques petites rencontres. On a aussi des jeux d'argent, ou bien, si vous esquivez les auberges, il y a des haltes dans les bois, loin d'être calme ceci dit. Alors bon point, c'est que tout le long du voyage accompli, on a bien géré ses sesterces, sous peine de tomber sur un os quelquefois. Donc la gestion de l'argent, elle est importante dans l'aventure. Or, dans des défis fantastiques, des fois l'or, on ne fait que l'amasser sans réellement le dépenser, et sans tomber sur un game over si on a zéro sesterce. Une pièce d'or. Alors cerise sur le gâteau pour le rendez-vous du chef, on a pour compagnon Abra Coursix à la toute fin. Cependant, il est d'adresse limitée, 10. Donc ce génial personnage peut nous ralentir. Alors il est à souhaiter que Goudurix soit réassocié à d'autres personnages connus du village d'irréductibles gaulois dans d'autres albums, dont je vous parlerai par la suite, une façon d'en apprendre plus sur leurs points forts et faibles. Allez. Quand je vous dis qu'Assurance Tour X, on l'a dans la vedette armoricaine, en prof de musique. Donc ici, pour finir, on a du très 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 bon. Comme pour une bonne BD Astérix, ce que je disais au départ, ça se lit sans temps mort. Le style adopté sans longueur convient bien au propos d'une mission à remplir dans un court temps imparti. L'auteur, qui a écrit un très bon histoire à jouer, le fils des steppes, ne se prive pas de jokes vachards de temps à autre, qui nous le font maudire en souriant. Par Toutatis et Belenos, on en redemande, sitôt fermé ce livre jeu d'aventure, à redécouvrir une petite pépite des années 80 que vous retrouverez à un prix honnête sur le marché de l'occasion. A bientôt les amis, et maintenant je vous invite à accompagner Jean-Patrick Capdevielle pour un double aller simple sur Pékin, pour Pékin, sur le 101.5 FM, pour faire lien avec le nouveau film Astérix dans l'Empire du Milieu. Bye bye.
Cent cinquantième étage, deux doigts sur ta chaise. Bye bye bébé, passage. Ma tête qui est pas prête. Paraît que ton avenir brille. Passe-moi tes lunettes noires. Même si la vie vacille, je vais pas me mettre à boire. Double aller simple pour Pékin.
côté du tunnel, toute seule sous les lumières. C'est vrai que t'étais trop belle quand je t'ai jeté des pierres. Trop de mots pour dire pas de chance, trop d'heures dans le même matin. Même si j'aime pas ta danse, je suis pas revenu pour rien. Double aller et simple pour Pékin.
C'est l'heure de ta chronique dans Imaginaire sur le 101.5. Attends, je te colle quand même ton générique, ton jingle, je veux dire.
Et donc, Jean-Philippe Jaworski nous emmène de nouveau au cœur du vieux royaume. En effet, le tome 1 du Chevalier aux épines nous ramène à l'univers de Gagny et la guerre. Il s'agit donc du même univers, mais pas d'une véritable suite, néanmoins. Puisque nous découvrons de nouveaux personnages, de nouvelles régions, nous retrouverons des personnages de Gagny et la guerre. Ça fait suite sans vraiment
faire suite. Suite.
Et donc, Gagny et la guerre était un roman, son premier roman sorti en 2009. Et en termes de personnages, nous allons retrouver tout particulièrement
Bon, enfin voilà, il y en a un. Il y a un personnage donc dont Karine n'arrive pas à dire le nom.
Benvenuto.
Non, mais c'est pas là.
Voilà. Et dans ce roman-ci, nous suivons principalement le chevalier Aedan de Vaumacel, personnage que l'on peut apercevoir dans la nouvelle Le Service des Dames, disponible dans le recueil de Janua Vera, puis illustré dans une version par Sébastien Hayez. Ce personnage veut restaurer son honneur, puisque soupçonné d'être en partie responsable de l'adultère de la duchesse Odéarde de Bromael, le procès a été réalisé sans sa présence et la duchesse a été jugée et emprisonnée. Cependant, ce chevalier aux épines se met en tête de retrouver les personnes qui ont enlevé des enfants. Et les péripéties vont donc s'accélérer au fil des pages pour nous offrir une vision plus globale de la cour et du parcours de ce chevalier qui revient se racheter seulement au bout d'un an. C'est quand même fort. L'auteur nous fait explorer un royaume tellement bien construit que l'on croirait qu'il est réel. Le vocabulaire utilisé nous ancre d'autant plus dans l'univers et l'auteur fait de nombreuses références à la chevalerie, à l'histoire, à la légende arthurienne et aux chansons de gestes. Donc nous sommes plongés dans cet univers complexe dès les premières pages, d'une manière presque contemplative au départ, et qui nous embarque dans des conflits de pouvoir et de nombreux tournois. Et au-delà de ce contexte historique, l'auteur nous permet de faire le rapprochement avec notre propre histoire et nous permet également d'explorer une autre approche de l'imaginaire médiéval avec l'absence de royauté dans l'univers qu'il nous propose. Il souligne notamment la psychologie humaine en mettant en scène un personnage qui veut racheter ses fautes sans vraiment le prouver puisqu'il préfère visiblement partir en quête de ravisseur d'enfant. Jean-Philippe Jaworski est un auteur de romans et de jeux de rôle, mais également nouvelliste. Il a construit un riche univers avec ses nombreux romans et nouvelles autour du vieux royaume dont il nous offre un nouvel aspect. Et son premier roman, donc, comme je le disais au départ, Gagner la guerre, a obtenu le prix Imaginal également en 2009 et a été adapté en BD. Je vous invite donc à vous laisser emporter par son univers complet et très documenté, que ce soit par ce tome 1 du Chevalier aux épines que par ses autres récits. Je vous encourage vivement à redoubler de vigilance quant aux prochaines sorties, puisque le tournoi des preux est le début d'une trilogie. Tome 2, Le Comte de l'Assassin, devrait paraître en juin 2023.
Et pour parler de l'actu de Jean-Philippe Jaworski, il est en train de rééditer son jeu de rôle. Tedum, je sais pas, j'ai pas fait de latin moi. Tedum pour un massacre.
Moi non plus, faut pas trop compter sur moi.
Un jeu de rôle qu'il avait écrit en 2008 et là il y a une campagne de financement qui vient de commencer sur Ulule pour le rééditer chez Open Sesame Games. Donc c'est un jeu de rôle très historique qui avait la particularité de se dérouler pendant l'époque des guerres de religion.
Voilà. D'accord. Donc toujours dans un univers très médiéval.
Ouais.
Finalement. Ah oui, il y est attaché, a priori, et c'est vraiment, vraiment sympa, en fait, de voir comment il crée un univers aussi complexe et aussi dense, de par la création de ses personnages, mais aussi le contexte qu'il met tout autour, et visiblement, et ça se ressent, en tout cas, à la lecture de son roman, il s'est fortement documenté aussi sur le sujet.
Ok. Et tu nous as choisi une petite musique.
En effet, je vous laisse découvrir ou redécouvrir la chanson Wars.
Tu parles pas l'allemand non plus apparemment.
Ah bah non, j'ai fait espagnol en seconde langue.
Moi je dirais Was ihr wollt.
Voilà. Du groupe Subway to Sally.
Ils sont allemands quand même. Écoute ça sur le 101.5.
Bittet, eins von dem ein jeder schwärmt. Ihr wollt schreien, ihr wollt toben, wollt den Veitstanz im Vulkan. Wollt statt Gott den Teufel loben, wollt die Liebe und den Wahn. Ihr wollt das alles, doch ihr bekommt nur das, was ihr auch verdient.
Allez, c'est l'heure d'écouter l'interview de Rich Larson dans Imaginaire.
Oui.
Pierre-Marie avait adoré Ymir, son troisième roman qui a été traduit, sorti en français aux éditions du Bélial. Il l'avait présenté quand on avait fait notre petite soirée Retour vers les futurs, je me rappelle bien, à la bibliothèque municipale.
Il me semble qu'il l'a chroniqué également à la radio.
Et donc, il était très content d'interviewer ce jeune homme aux Utopiales. C'était en novembre dernier.
Bonjour Rick Larson, l'équipe Imaginaire est très content de pouvoir passer du temps avec toi, surtout que tu nous fais le plaisir de parler en français. Comment est-ce que ça se passe d'ailleurs le salon français? Tu arrives à parler un petit peu ou tu passes sur les tables rondes en anglais et tu te traduis? Qu'est-ce que tu préfères?
Ce que j'ai fait ici, je m'efforce. Je commence toujours en français et si j'en ai des difficultés, je change en anglais.
Et c'est pas trop difficile?
Ça dépend de journée, du sujet, du café. Mais normalement, ça marche.
Tu as commencé à écrire, en tout cas tu as été publié à partir de 2010 dans de la littérature blanche, et puis 2012 pour de la littérature de genre, mais c'était des nouvelles, ton premier roman, en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé avant 2010? Est-ce que tu écrivais de ton côté, ou est-ce que ça t'est venu comme ça à un moment donné?
J'ai toujours écrit des choses. C'était comme une habitude. Mm-hmm. Et c'était pas quelque chose... j'avais pas une rêve d'être écrivain ou auteur, mais c'était juste une habitude. Quand j'étais petit, j'ai toujours adoré raconter les histoires, les petites nouvelles à mes sœurs. Même avant que j'ai pu écrire, j'ai raconté et ma grande sœur, elle a écrit pour moi. Donc c'était juste quelque chose d'habitude et j'ai rendu compte que je pourrais le faire comme travail quand j'avais 19. J'ai gagné une espèce de competition, concours. Oui. Et après ça, j'ai vu, ok, je peux le faire comme travail et les gens vont me payer. Et, ben.
Et depuis, tu n'arrêtes pas. Tu continues, t'écris tout le temps.
Oui, c'est ça.
Quel a été le moment où tu es passé de la nouvelle pour écrire un roman en 2018?
J'ai écrit le roman seulement pour prouver que je le pourrais faire. Pour moi, j'aime pas beaucoup les romans. Je préfère les nouvelles. J'ai beaucoup, beaucoup d'idées et j'adore sauter entre les idées. Avec un roman, c'est difficile. Il faut qu'on aime beaucoup les personnages et l'environnement, le sentiment, parce qu'on reste là pour une année ou plus. Oui, donc pour moi, c'est un processus difficile, écrire un roman. Mais j'ai fait Annex, c'était mon premier roman, parce que j'ai voulu prouver que je pourrais faire un roman aussi. Et j'ai voulu voir juste comme un livre propre.
Pour toi?
Pour moi, oui.
Alors justement, ce premier roman, il a une suite. C'est une série en deux tomes qui n'a jamais été traduit en français. Premier roman traduit en français, Ymir, cette année, au Bélial. Ymir, il est tout seul, il vient après ces deux romans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de décrire ce roman-là particulièrement?
C'est parce que quand j'ai vendu les premiers romans, c'était conditionnel. Parce que l'éditeur, la maison, a demandé trois romans. Et je ne voulais pas écrire trois romans, mais ce que je voulais, c'était de l'argent. Parce que j'étais plus jeune, j'avais pas d'argent, et donc j'ai dit, ok, je peux écrire trois romans. Pas difficile, mais c'était difficile. alors, j'ai essayé d'écrire un sequel pour Annex, mais ça marchait pas. Annex, c'est vendu très mal. Mm-hmm. Et dans l'éditeur a dit, ok, tu peux changer d'avis, faire quelque chose de différent. Et pour ça, Ymir n'a rien à faire avec Annex. Mm-hmm. C'est complètement différent. En fait, Annex, c'était pour les jeunesses, YA.
Ouais.
Et Ymir, c'est un roman adulte. Et un style très différent.
On en parlera après, mais oui, c'est très très différent.
Mm-hmm.
Et est-ce que ça s'est bien vendu en Angleterre?
Je sais pas, mon éditeur m'a envoyé une link pour voir les ventes, mm-hmm. les chiffres.
Ouais.
Oui, mais le link fonctionne pas, donc je dois parler avec eux.
Bah, en tout cas, tu as eu une traduction en français,
mm-hmm.
et ça a l'air de plutôt plaire. En tout cas, la critique est unanime, tout le monde apprécie.
Oui, oui. En anglais aussi, les critiques étaient très belles, mm. mais on ne sait jamais si les critiques belles vont amener aux ventes.
Ouais,
oui, bien sûr. C'est le problème.
Et entre ces trois romans que tu as écrits, est-ce que tu as continué à écrire des nouvelles au milieu pour changer un petit peu?
Oui, toujours. J'ai toujours écrit les nouvelles.
Mm-hmm.
Quand je suis en train d'écrire un roman, j'ai beaucoup, beaucoup d'idées pour les nouvelles qui sont comme percolating.
Mm-hmm.
Et j'ai toujours un sens de culpabilité parce que c'est comme je préférais écrire les nouvelles. Mais quand j'écris un roman,
mm-hmm.
ok, je ne peux pas faire les nouvelles, je dois me focaliser en le roman. Et quand je fais les nouvelles, je pense dans la fonte de la tête, oh non, je dois pas faire ça, je dois travailler sur le roman.
Mm.
Et c'est comme ça.
Et c'est pas compliqué de switcher entre roman et nouvelle? Est-ce que quand tu écris des nouvelles au milieu de ton processus d'écriture du roman, tu ne perds pas ce que tu voulais écrire sur le roman?
Non, j'adore switcher. Pour moi, c'est très important,
mm-hmm.
Parce que quand je travaille en quelque chose de spécifique pour trop de temps,
mm-hmm.
je m'ennuie un peu et je perds le fil.
Mm-hmm.
Et pour moi, quand je fais le switch, c'est pour que le subconscious...
Le subconscient.
Oui, peut travailler quand je travaille en autre chose.
Ouais.
Oui.
Et est-ce que tu as un processus d'écriture différent pour la nouvelle et le roman, ou est-ce que tu écris de la même manière, c'est juste la taille qui change?
C'est la même manière, et ça c'est le problème, parce que je planifie pas, je fais pas les plans.
Mm-hmm.
Et avec les nouvelles, c'est pas grave, parce que si on écrit une mauvaise nouvelle, c'est comme, oh, j'ai perdu 2 jours, 3 mm-hmm. jours, mais... Quand on écrit un roman mal, c'est comme, oh, j'ai perdu une année de ma vie.
On va parler un peu de Ymir. Ymir, la couverture, le quatrième de couverture, l'univers, le nom, c'est beaucoup en rapport avec la Scandinavie, avec les Northmen. Pourquoi est-ce que tu t'es rapproché de ça? Il n'y avait pas cet héritage dans tes nouvelles, moi en tout cas, moins marqué.
C'est une vibe. C'est une vibe que j'adore. Et l'environnement de Ymir, c'était inspiré plus par Canada, parce que j'avais beaucoup des années en Alberta, au nord du Canada, et les hivers sont terribles, incroyables, et donc j'ai pensé beaucoup en ça. Et quand j'étais jeune aussi, j'ai adoré la mythologie nordique.
Ouais.
Et pour ça, j'ai voulu faire des références au... Ymir, c'est le nom d'un, pas un dieu, mais un géant qui s'est sacrifié le corps pour créer le monde.
Mm-hmm.
Si vous,
la ville s'appelle Mundin, qui est un des corbeaux. Il y a pas mal de références.
Oui, c'est ça.
Mais le personnage, par contre, lui, n'a rien à voir avec les Scandinaves. On retrouve un héritage avec la culture, dans le sens où le héros, il est tout seul, il est exilé, qui était une peine, un châtiment pour chez les Scandinaves. Mais là, tu as fait un héros qui est défiguré, qui est banni, alors même qu'il vit au sein de la société. Pourquoi avoir pris ce choix-là?
Oui, le protagoniste n'est pas vraiment un héros. En fait, quand dans les romans, c'est l'opposé.
L'anti-héros.
Oui. Ben, non, c'est plus fort que ça. C'est le vilain. Oui. Il se rend compte qu'il est le vilain de l'histoire. Spoiler. Oui. Mais c'est un personnage un peu plus tragique. Et pour ça, j'ai choisi les noms Shakespearean, Yorick. Oui. Et c'est un personnage qui emprunte beaucoup de ma vie personnelle. Et c'est un privilège, je crois, comme écrivain, on peut écrire un personnage très personnel. Et c'est comme surveiller, pas surveiller, like taking a survey. Excuse. Je suis super mal. J'ai des problèmes avec ça, avec ça, avec ça. Et je demande au lecteur, est-ce que vous pourrez avoir l'empathie, empathie, avec ça, et pousser les personnages aux extrêmes. Ah oui, c'est comme faire un sondage.
C'est demander l'avis aux gens et donner leur avis sur comment écrire.
Ah oui, oui, c'est intéressant.
C'est quasiment de l'écriture participative.
Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas beaucoup Ymir parce que les personnages sont très traumatisés. L'atmosphère, l'ambiance est trop noire, c'est très dur. Mais il y en a des gens, peu de gens, mais il y a des gens qui l'aiment beaucoup parce qu'ils se voient, they see themselves dans les personnages et dans cet environnement. Et pour moi, ça suffit.
On va parler un peu du référentiel d'Ymir. Quand on lit Ymir, c'est un livre qui est très compliqué, où on ne peut pas se mettre dans l'ambiance. Il n'y a pas les objets, les gens, il n'y a pas le référentiel, on ne peut pas faire par rapport à notre monde. Je pense notamment à Yorick qui va dans un bar, et le serveur, c'est juste un homme qui est dans une caisse avec beaucoup de bras pour faire le service. Les sacs à dos marchent derrière soi. On prend beaucoup d'alcool, on prend beaucoup de drogue, mais c'est normal, et on a en plus des virus qu'on s'injecte soi-même pour purger le corps.
Oui.
Pourquoi avoir fait ce choix de faire une rupture entre notre monde et le monde de Ymir? Est-ce que c'était vraiment voulu et pourquoi?
Moi, j'adore faire ce genre de trucs avec les technologies, spécifiquement les technologies biologiques. Et quand j'ai décidé d'écrire Ymir, j'ai pensé, OK, je vais mettre la scène, la mise en scène, c'est dans le futur loin, loin, loin. Et donc, il n'y a pas de référence à la Terre. Et avec ça, j'ai le sentiment de... Je suis complètement libre à inventer des choses. Oui. Et un peu ce sentiment de rupture, de désorientation. C'est la chose que j'adore quand je lis... si j'ouvre un livre et je lis les premières pages et je comprends rien, pour moi c'est comme oh, je veux continuer. Oui, mais c'est pas pour tout le monde, mais pour moi c'est le meilleur.
Une question sur ton travail avec Pierre-Paul Durastantier qui est ton traducteur. Dans le roman, quand tu écris en anglais, tu utilises beaucoup les pronoms neutres pour tout ce qui se passe avec les interactions avec les autres personnes dont on ne sait pas s'il y a des hommes ou des femmes. En français, Pierre-Paul a aussi utilisé des pronoms neutres, qui est un parti pris actuellement. Yel, exactement. Oui. Est-ce que c'est une discussion que vous avez eue tous les deux?
Non, on discute beaucoup, mais on ne discute pas sur notre travail. Il est un ami. Oui. J'ai beaucoup de confiance en ses capacités. Et donc, pour la traduction, c'est comme tu veux. Comme tu veux.
Okay.
Oui. il m'a demandé des autres choses, des petites choses, du vocabulaire. Il y a beaucoup, beaucoup de néologismes aussi. Oui. Et de temps en temps,
c'est difficile. La mousquette pour...
Mousquette.
Oui, mousquette, c'est quand il est dans, dans l'hôtel et tous les paliers sont revêtus. Nous, c'est de la moquette, là, sous nos pieds. Et lui, il utilise le terme de mousquette, un mélange de moquette et de mousse.
Oui, il est malin. Ouais. Ouais. Beaucoup d'idées.
On passe au portrait chinois.
Ok.
Tu lis beaucoup de science-fiction, on est d'accord?
Non, pas trop.
Pas trop?
Non.
Dommage.
Je lis beaucoup de choses, mais récemment, j'ai lu plus de la non-fiction. J'adore les animaux. Et comme enfant, je vais à la bibliothèque pour prendre tous les livres sur cet animal. Et c'était les orcas.
Ok.
Orcas. Yeah, c'est fascinant. Et avant ça, c'était de la poésie Charles Wright.
Ok.
C'est une poète américaine. Et avant ça, un peu de science-fiction. Parce que j'ai lu... j'ai essayé de lire The Exegesis of Philip K. Dick. Mais c'était trop.
C'est compliqué, non?
Oui.
Si jamais tu devais rencontrer un personnage d'un des livres que tu as lu, pour prendre un verre avec lui et discuter, quel personnage voudrais-tu rencontrer?
D'un livre?
Oui.
Philip K. Dick.
Ça, c'est un auteur, c'est pas un personnage.
Il est un personnage dans l'exégèse.
Philip K. Dick. C'est pas mal. On te donne la possibilité d'aller vivre sur une autre planète.
Probablement avec du soleil, Tatooine, comme ça. Oui.
Notre interview touche à sa fin et comme je te le disais, c'est toi qui vas nous présenter une musique qui est importante pour toi, que tu vas présenter à nos auditeurs. Quelle musique veux-tu qu'on passe?
En fait, il y a une chanson qui m'inspirait beaucoup. Pour moi, quand j'écris, j'ai toujours une playlist des chansons spécifiques et ça m'aide à entrer chaque journée dans le même sentiment, la même ambiance d'un roman. Et une chanson spécifique pour Ymir, c'était par un rappeur On Cue et la chanson s'appelle So Much Love. Et c'est une phrase qui revient et revient dans le roman. I have so much love to give. C'est comme le mantra.
J'ai beaucoup d'amour à donner.
Oui, c'est ça. Attends, c'est la chanson. Parfait.
Parfait. Ouais. Merci beaucoup.
Non, merci. C'était un plaisir.
I got so much to give you. I got so much to give you. I got so much to give you. I'm filled with cans. In the living room, waving hands, old dreaming, screaming, sending old captions under cushions, patterns of patches. All nighters, I've had countless. Matter of fact, selling yesterday's outfit. Instead of helping us finding that lit, teachers every second, just pitch them on the ballot. It's apparent, more drugs and liquor. Meet the parents, more jacket and pencil. Fuck it, turn up another level. When she go down, shit like a devil. Every time that I walk through the front door, always get two tickets to the gun show. Set up methods, when she give me pencils. Cause I thought by now I'm a pencil. Wear a mask to school, hide my face like I'm in MF Doom. Lie to my friends, can't face the truth. Give me any drug, I'm a damn vacuum. There's a flag on the moon, I could make the burner go click, click, boom. FedEx a motherfucker straight to his tomb. That'll be the last time that he busts in my room.
You know what this is, only liquor in the fridge. And your credit is a calling, and these lights are on the fridge. And our neighbors don't say shit, they just look the other way. Yeah, this place a fucking mess, but you can see it in my face that I got.
Dans Imaginaire sur le 101.5, un morceau de 2016, je crois. So much love. On passe à l'agenda. On avait juste un autre truc à annoncer. C'était le printemps des poètes, Karine.
Exact. Qui se déroule du 11 au 27 mars. Et il y aura notamment le festival Rythme et Poésie aux Folies Angevines le samedi 11 mars à partir de 18h30.
On a le temps de prévoir.
Voilà.
Et donc, le thème du printemps des poètes, cette année, eux aussi, ils l'ont piqué à Imaginaire.
En effet, c'est Frontières.
Après premier plan. Double jeu chez premier plan, mais il y a aussi Frontières au printemps des poètes. On aura le temps d'en reparler. Notre prochaine émission, on aura l'interview de Boulet, célèbre auteur de bande dessinée, réalisé aux Utopiales aussi. Et puis, voilà, on va se quitter en musique encore. C'est Les Voix du Scénarium dans quelques minutes sur le 101.5. Et du coup, j'ai prévu un dernier morceau par un groupe très, très influencé par le jeu de rôle. Il s'appelle Throne of Iron. Je pense qu'ils sont plus fans de Donjons & Dragons que de George Martin, par exemple. Ils viennent de faire un split album avec un groupe qui s'appelle Dungeon Crawler, par exemple. Et ils ont une série de morceaux qu'ils ont appelé Roll for Metal. On trouve ça sur leur page Bandcamp. Alors, j'ai pas tout compris, mais en gros, ils lancent des dés et en fait, ils construisent leurs morceaux à partir du résultat des dés, quoi.
Ah, d'accord.
Genre le rythme de batterie, les riffs et tout. Enfin bon, voilà. J'ai pas trop pigé, mais bon, après, ça reste du heavy metal assez traditionnel. Et donc, on va terminer l'émission avec un morceau extrait de leur album Adventure One. C'est dommage qu'ils ne filent pas un scénario. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de scénar dans, dans leurs albums. Bon. Et c'est le morceau Past the Doors of Death. Voilà, donc restez à l'écoute du 101.5 dans quelques minutes. Les Voix du Scénarium avec la suite de leur actual play Cthulhu. Et nous, on se retrouve dans deux semaines. Bye bye.
scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voies du scénarium.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez